chapitre 17, nous allons le lire en entier. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme, assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce que elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête, qui était et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et les appelés, les élus, et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Amen. L'un des sept anges, parmi ceux qui tenaient les sept coupes, nous les avons vus, ces sept anges qui avaient reçu sept coupes de la colère de Dieu. Ben, l'un de ces sept anges va montrer à Jean un objet de jugement tout à fait singulier. La grande prostituée. Et l'apôtre va pouvoir considérer cette femme et la décrire. Mais avant tout, un rapprochement s'impose pour que nous comprenions bien l'ensemble de cette révélation que nous apporte l'Apocalypse. Si nous lisons au chapitre 21, par anticipation à notre étude, lisons au chapitre 21 et au verset 9. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes, rempli des sept derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Alors, c'est encore l'un des sept anges qui tenait les sept coupes de la colère de Dieu. On ne sait pas si c'est le même, celui du chapitre 17, n'est-ce pas, le même dont il est parlé ici au chapitre 21, mais peu importe, c'est l'un des sept anges, l'un de ces sept anges qui tenait les sept coupes, se propose de montrer à Jean l'épouse, la femme de l'agneau, qui s'apparente également avec une ville. Et il me montra la ville sainte. Et il avait annoncé qu'il montrerait à Jean l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem. Donc, l'épouse, la femme de l'agneau, s'apparente également avec une ville, la Jérusalem, qui descend du ciel. Sans aucun doute, Jean voit alors, ici, l'Église véritable. L'épouse, la femme de l'agneau, il voit l'Église véritable. Il voit cette Église sainte, éclatante de la gloire divine. Par contre, au chapitre 17 que nous étudions maintenant, la femme qui est si luxueusement parée et qui est appelée la grande prostituée et également Babylone la grande, cette femme symbolise l'immense Église infidèle, apostate et corrompue de la fin des temps. Deux femmes, en total contraste, sont donc présentées à Jean successivement. L'Église mondaine et dénaturée face à l'Église pure et fidèle. Ces deux femmes, en contraste, chapitre 17 et chapitre 21. Alors ça, il faut que nous en ayons bien la représentation, n'est-ce pas? Nous voyons ainsi, clairement, que la femme, appelée la grande prostituée, Babylone la grande, n'est-ce pas, est bien la fausse Église, l'Église apostate de la fin des temps. Et l'Église véritable, elle aussi, est symbolisée par une femme, et l'Église véritable, elle aussi, est apparentée avec une ville. Voyez, la fausse Église, la prostituée, une femme, est apparentée avec la Babylone. Tandis que la véritable Église, l'épouse de Christ, est apparentée avec une ville aussi, la Jérusalem d'en haut. Vous voyez, n'est-ce pas, le contraste, il faut bien se représenter cela. Alors, qu'apprenons-nous de la grande prostituée? Nous apprenons d'abord au verset 1 du chapitre 17... qu'elle est assise sur les grandes eaux. Et le verset 15 nous a dit que les grandes eaux sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Ainsi, ce que nous apprenons d'abord, c'est que cette prostituée, étant son influence et son autorité de caractère spirituel sur une grande partie du monde. Qui sait si ce n'est pas le monde entier? Hein? Lorsque la Bible nous dit en effet les peuples, les foules, les nations, les langues, cela nous représente la terre tout entière. Voilà donc cette prostituée qui est assise sur ces grandes eaux, sur ces peuples, ce qui signifie qu'elle domine d'une certaine manière. Elle domine, elle étend son influence, elle est connue de tous ces peuples, de toutes ces nations. Voilà ce qu'est cette prostituée déjà, et nous avons dit que il y aurait à la fin des temps, nous avons même montré que ça se prépare maintenant, hein, une église de multitude, de grande multitude, auprès de laquelle même la multitude des églises traditionnelles n'aura été encore que peu de choses. Là, ce sera vraiment l'église de la multitude, de la grande multitude. Le système, appelons-le ainsi, le système, pour ne pas toujours dire église, n'est-ce pas? Le système représenté par cette femme. C'est ce que dit cet auteur de cette femme, de ce système représenté par la femme. Ce sera une étrange combinaison, dit-il, de protestantisme, de romanisme, d'athéisme et de toutes sortes d'idéologies amalgamées sous le patronage de l'œcuménisme. Et c'est vrai, je pense, c'est pas la peine de chercher autre chose. Il est vrai que dans l'ensemble, c'est cela. C'est cela. Nous n'y verrons pas seulement le catholicisme. D'ailleurs, le catholicisme, lui, il abandonne pas mal de choses qui tenaient à ses traditions, à son magistère, et en ce moment, il est prêt à faire pas mal de concessions, et il accepte toutes sortes de liens. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous dire, je ne crois pas, qu'il y a même un organisme, le CRIG, qui a pour mission de travailler au rapprochement de l'islam et du catholicisme. Et les travaux ont déjà fait pas mal de progrès, au point que nous entendons certains membres de la hiérarchie catholique nous dire que, dans le fond, il n'y a pas la différence qu'on a cru toujours entre l'islam et le christianisme. Ils nous disent et ils écrivent aussi que le Coran est une parole de Dieu. Ils n'ont pas dit encore la parole de Dieu, une parole de Dieu. Que Mahomet est un authentique prophète, et que dans sa position, dans ses paroles, il y a des choses bonnes. Une parole de Dieu. On s'efforce même d'aller plus loin, et on cherche s'il ne serait pas possible de dire la parole de Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu, c'est la Bible, n'est-ce pas, pour le christianisme, c'est la Bible. Mais ces gens qui désirent absolument arriver à une union avec l'islam, eh bien, Ils disent, la Bible, c'est la parole constitutive de Dieu. La parole constitutive. L'islam, le Coran, c'est la parole explicative. C'est quelque chose d'aberrant. Je ne sais pas si vous connaissez le Coran, moi je le connais, mais c'est quelque chose d'absolument aberrant. Et ça, il y a des cardinaux qui ont écrit cela. Et nous savons aussi qu'il y a des tentatives qui sont faites, qui vont peut-être plus loin que ce que nous pouvons en connaître, pour un rapprochement avec le bouddhisme. Et tout ça, ça marche dans l'ombre, mais un jour, un beau jour, on voit apparaître de ces choses comme ça, n'est-ce pas? Le Coran est une parole de Dieu. Voilà, par exemple, peut-être que bientôt, n'est-ce pas, on va nous montrer tous les avantages du bouddhisme et d'autres choses. Alors, John Alexander a trouvé la bonne formule, la prostituée correspond à une étrange combinaison de protestantisme, de romanisme, d'athéisme. Il ne faut pas oublier que à Rome, au Vatican, il y a un organisme qui s'occupe des frères non-croyants. Ah oui, ben oui, on s'occupe des frères non-croyants, il y a tout un service, tous des services, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas s'ils annoncent l'évangile aux non-croyants, je n'ai pas l'impression, je crois qu'ils les laissent dans leur état. Alors, il y aura cela, et toutes sortes d'idéologies amalgamées, en effet, sous le patronage de l'œcuménisme. Voilà donc, grosso modo, ce que sera cette prostituée. Nous comprenons maintenant le pourquoi de cette qualification prostituée. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. La prostituée exerce une puissante séduction sur les rois de la terre. Chose extraordinaire, il y a dans le monde des peuples qui ont une tendance religieuse, et qui, en général, les mahométans, par exemple, n'est-ce pas, il faut peut-être pas généraliser tellement, parce que moi j'ai connu pas mal de mahométans qui n'étaient pas vraiment, vraiment des croyants. Hein. Ils obéissaient souvent par simple contrainte. Mais enfin, nous avons, on peut dire, des peuples qui aspirent tout de même à une connaissance de la divinité, qui ont besoin d'une religion. Mais nous en avons, par contre, une grande part aujourd'hui qui n'aspire à rien du tout de tel, mais qui, cependant, ont besoin d'un surnaturel. Et ce surnaturel, ils vont le chercher un peu partout, dans la méditation transcendantale, dans le yoga, dans le zen, dans tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas? Ils vont chercher quelque chose dont tout de même le cœur humain a besoin. Ils repoussent Dieu, ils repoussent la religion parce que la religion comporte souvent, le plus souvent, une morale, des commandements. Cela les gêne, ils n'en veulent pas, mais par contre, ils ont besoin tout de même d'une mystique. Ils ont besoin d'une mystique, ils vont la chercher là où ça se trouve. Eh bien, tout cela, en effet, va se grouper. Et il arrive à la fin que c'est la prostituée, par la puissance du diable. Faut pas oublier qu'à ce moment-là, n'est-ce pas, le diable est installé là sur la terre, il a son homme, je ne vais pas dire qu'il a son pape, mais c'est plus encore qu'un pape, il a l'antichrist. Il a son homme. Il est dans cet homme même. Il a constitué sa trinité, le dragon, l'antichrist et le faux prophète, la seconde bête. Alors, cette trinité est là, cette fausse trinité est là, mais la puissance de Satan est grande, et il l'exerce là dans toute l'ampleur qu'il est capable de lui donner. Et alors, il fait que la prostituée puisse exercer une puissante séduction sur les rois de la terre à travers les gouvernements. N'oublions pas que nous l'avons vu assise d'une part sur les grandes eaux, ça c'est pour nous donner, nous montrer l'extension qu'elle a prise sur la terre et la domination qu'elle exerce sur les peuples, mais nous l'avons vu assise aussi sur la bête écarlate. C'est-à-dire sur le système politique de l'Antichrist et sur l'Antichrist lui-même. Le système politique de l'Antichrist et l'Antichrist lui-même sont en somme, forment une chose. Si vous voulez, l'empire de l'Antichrist et l'Antichrist lui-même sont, dans les images que nous avons, ce qui nous représente d'ailleurs une réalité, ils sont presque à confondre l'un avec l'autre. D'ailleurs, cela en contrefaçon du royaume de Dieu, car quand il est question du royaume de Dieu, Christ se montre. Le Christ et le royaume de Dieu sont aussi tellement unis qu'on peut presque les confondre. Quand il s'est agi, par exemple, à quelques apôtres, de montrer l'avènement, l'avènement du royaume de Dieu, eh bien, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Il s'est montré lui-même dans son jour. Pour montrer le royaume de Dieu, il s'est montré. Eh bien, vous savez, le diable sait très bien où il va chercher ses bonnes leçons. Et il sait très bien que les dispositifs de Dieu sont les meilleurs. Alors, ne nous étonnons pas que qui est rappelée au chapitre 17 et sur laquelle la prostituée est assise, que cette bête représente à la fois le système, l'empire de l'Antichrist et l'Antichrist lui-même. Alors, elle exerce, cette prostituée, une puissante séduction sur les rois de la terre par le truchement même des gouvernements. Elle a pu entraîner des masses humaines dans l'infidélité à Dieu et dans l'idolâtrie. Elle les a servis. Le besoin religieux est là. Seulement, l'homme pécheur aime bien que son besoin religieux soit contenté par quelque chose d'apostat. C'est en raison de ce que l'homme est pécheur et que le péché en lui c'est à développer toute sa puissance. Alors, la prostituée a donc amené des masses à l'infidélité et à l'idolâtrie, et elle les a mis comme en état d'ivresse. C'est une véritable ivresse qu'elle a répandue dans le monde à ce moment-là. De l'apostasie et de la défiguration des vérités, les vérités sont défigurées. De cette défiguration, de l'apostasie, elle a fait une source de contentement et d'euphorie dans ce monde. C'est ainsi qu'elle a abreuvé les hommes d'un vin d'étourdissement faisant perdre tout jugement. Chers amis, quand on médite là-dessus, qu'on voit cela, que la prostituée va faire ça, qu'elle est déjà en train de se former et d'exercer cette puissance maléfique. Eh bien, chers amis, on est obligé de s'examiner. On est obligé d'examiner l'Église dans, à laquelle nous appartenons. On est obligé d'examiner cela et de se dire, attention, n'y a-t-il pas pour nous aussi un même danger de séduction, un danger de même nature, de même ordre. Mais si il y ait ce danger, puisque le Seigneur Jésus nous a bien dit, j'aime le rappeler, je l'ai déjà rappelé, mais j'aime le redire, le Seigneur Jésus nous dit, si tu gardes la consigne de persévérance en moi, moi je te garderai de la séduction qui va s'étendre sur le monde entier. Et il s'agit déjà de cela, du prélude à l'apogée de cette prostituée. Elle n'est pas à son apogée maintenant, mais je vous dis, elle se prépare et elle commence à répandre son influence sur le monde. Moi, j'aime bien, n'est-ce pas, que on prenne connaissance des révélations de Dieu touchant les événements qui vont se produire, mais je pense que nous devons y trouver pour nous-mêmes avertissement. Comme je vous le disais ce matin, nous avons besoin, nous, d'avertissement. Et le Seigneur nous en administre des avertissements, à nous, peuple de Dieu, qu'il aime. C'est en raison de son amour qu'il nous avertit. Le verset 3. « Et il me transporta en esprit dans un désert. » Voici que la prostituée, Jean, est amené à aller la voir, l'examiner, alors qu'elle est dans un désert. Voyez, n'est-ce pas, les images qui nous sont données ici, hein, pour nous décrire ces choses. Vous voyez que ça ne peut pas être décrit, dans le fond, autrement que par des images. Enfin, essayez, voyez, moi j'essaie de revenir, si vous voulez, à un exposé plus direct de la réalité, mais vous voyez qu'on a bien du mal, n'est-ce pas, à exprimer des choses. Heureusement que nous avons le soutien de ces images. Alors, il a vu la femme sur une bête écarlate. Ça, c'est le système de l'Antichrist, le système politique, alors, de l'Antichrist. Puis, il l'a vu assis sur les grandes eaux, les foules, les peuples, des nations. Bon, maintenant, l'ange la lui montre dans le désert. Dans le désert. Et tout cela a un sens. Ce désert est un désert moral, un désert spirituel. Elle est, cette femme est entièrement privée de l'eau vive, rafraîchissante de l'Esprit de Dieu. Elle est entièrement privée. Elle est dans un pays de sécheresse. Il y a toute sécheresse. N'allons pas par conséquent, n'est-ce pas, dire, mais il y aura peut-être encore tout de même des vérités, l'Évangile sera tout de même encore prêché, peut-être il y aura tout de même quelque chose à prendre. C'est ce qu'on a tendance actuellement à se dire devant le système romain, par exemple, n'est-ce pas, ou devant toute forme de christianisme qui manifestement est lui aussi défiguré. Oh ben oui, il y a ça de bon, il y a encore quelque chose de bon. Il n'y a rien. Si l'erreur est là, le diable aussi, il a de la lumière. Alors allez chercher de la lumière chez lui, si vous voulez. N'est-ce pas? Il est l'ange qui se déguise en lumière. Mais là où il y a l'erreur, là où il y a l'apostasie, là où il y a des contre-vérités ou des vérités faussées, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'eau vive, c'est un désert. Par conséquent, n'est-ce pas, vous voyez qu'actuellement, nous ne pouvons pas pactiser avec l'œcuménisme. Et d'ailleurs, nous voyons bien les mauvais fruits que l'œcuménisme a produit jusqu'ici, puisque l'argent de beaucoup d'églises est allé à des terroristes. Oui, oui, à des terroristes. Alors vous voyez, n'est-ce pas, quelle tournure les choses ont pu prendre sous l'empire, n'est-ce pas, de cette pensée qu'on peut mélanger, on peut associer à son gré des choses qui sont contraires l'une à l'autre. Alors, c'est un désert. Vous voyez, là aussi, le Seigneur nous prévient. Il n'y a pas trace d'esprit, il n'y a pas une goutte d'eau. Il n'y a rien, c'est un désert. Voilà, un des caractères encore, n'est-ce pas, de la prostituée. Nous allons maintenant, toujours au verset 3, « Et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine des noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. » Bien, elle est assise sur la bête écarlate, ce qui signifie qu'elle est en collusion avec la première bête du chapitre 13, c'est-à-dire, bon, je le répète, le système de l'Antichrist, système politique, qui est identifié, qu'il faut que nous identifions à l'Empire romain. L'Empire romain rétabli dans sa dernière forme de 10 royaumes assemblés. Ils fomentent ensemble les coupables desseins, des desseins contre Dieu, car ça, nous l'avons déjà vu, c'est la hantise, c'est le principe, la hantise du diable. Il a voulu créer son propre empire, son propre univers. Il s'est placé plus haut que le Dieu très haut, et il veut, bien sûr, travailler à la destruction de Dieu. C'est quelque chose d'insensé, d'incompréhensible. Il manque lui-même, l'Antichrist, en dépit de la grande intelligence dont il se sert, la fausse intelligence, naturellement, eh bien, il manque, lui, de lumière, de clarté, car il devrait savoir que Dieu ne peut pas être détruit, ne peut pas être atteint. Mais, cependant, il poursuit ce dessein. Alors, c'est pourquoi, avec le système politique dont l'Antichrist est le chef, eh bien, là, il fomente les desseins les plus coupables contre Dieu, d'où les blasphèmes, d'où toutes ces paroles outrageuses contre Dieu. Alors, voyons le verset 4. « Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, des abominations et des impuretés de sa prostitution. » Cette femme, qui est complètement dépourvue de la gloire de Dieu, s'est procurée la gloire, une autre gloire. C'est toujours ce qui se passe, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas surpris. Elle s'est procurée la gloire des apparences que le monde admire. Le monde ne sait pas admirer la gloire de Dieu. Nous la chantons parce que le Saint-Esprit de Dieu est venu en nous et il nous montre que le grand sujet d'admiration, c'est la gloire de Dieu. Nous chantons la gloire de Dieu. Mais ceux qui sont séparés de Dieu ne connaissent pas la gloire de Dieu. Alors il leur faut une gloire, et c'est la gloire des apparences. Cette prostituée tient une coupe d'or. Alors là aussi, nous voyons un contraste flagrant, une opposition. Vous savez que l'Église fidèle a reçu la coupe du Seigneur. Et la coupe du Seigneur, la coupe de la Sainte Seine, la coupe de la Nouvelle Alliance dans le sang du Sauveur. Ceci, en présentant la coupe, Jésus a dit, ceci est la Nouvelle Alliance en mon sang. Cette coupe, donc, a reçu l'Église, et à laquelle nous buvons ensemble le dimanche, Cette coupe est remplie des bénédictions de Dieu, les bénédictions célestes dans les lieux célestes, bénédictions attachées à la nouvelle alliance. Or, en opposition, en contrefaçon, la prostituée, elle a aussi une coupe. Elle a une coupe, elle a un vin aussi. Elle a une coupe qui ne contient que des abominations et des impuretés en rapport avec son comportement idolâtre. Elle a une coupe, elle aussi. Et c'est avec cette coupe qu'elle abreuve les hommes du vin de son impudicité. L'Église fidèle a le vin de la Seine. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Elle, elle a aussi un vin, le vin de ses abominations, de ses infidélités, de ses mensonges, de son hypocrisie, de tout ce qu'elle déverse de pervers sur le monde. Elle abreuve le monde de ce vin-là. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Il y avait autrefois des villes qui étaient appelées villes prostituées. Nous en trouvons, par exemple, deux. Dans Ésaïe, il y a la ville de Tyr, qui était déjà appelée ville prostituée. Il y avait aussi la ville de Ninive, dans le prophète Nahum. Mais Babylone, elle les a surpassées, toutes. Les villes prostituées d'autrefois, les villes où régnait l'idolâtrie, l'apostasie, elle a fait beaucoup mieux. Beaucoup plus, elle les a toutes dépassées par l'outrance de son hérésie idolâtre et par sa corruption. Tout y est, tout est ensemble. D'ailleurs, on ne peut pas séparer l'idolâtrie de la corruption. Tout va ensemble. Et alors, elle nous est présentée comme la mère des impudiques et des abominations de la terre. Pourquoi la mère des impudiques? Et parce que elle a beaucoup de filles. Elle a beaucoup de filles, des filles qu'elle amène sous le joug d'une intimité impie avec le monde et le diable, qui est le dieu de ce siècle. En somme, on pourrait dire que elle aura ses établissements, cette prostituée, et ses établissements parsèmeront la terre entière. Elle aura, si vous voulez, si je puis m'exprimer ainsi, ses églises. Elle aura ses églises. Et les églises de multitudes que nous voyons déjà se former, avec à la clé de magnifiques scandales, même s'il n'y avait pas le scandale d'une inconduite, il y aurait le scandale de l'argent. Et déjà, c'est déjà suffisant. Eh bien, alors, elle aura cela. Et ce que nous voyons, les télé-évangélistes de l'Amérique, oh, soyez tranquilles, vous savez, quand quelque chose se fait en Amérique, 3, 4 ou 5 ans après, on le trouve ici. Hein? Alors, ne désespérez pas. Mais, de toute manière, attention, ça se forme déjà. Ça se forme déjà, en Angleterre. Alors, tout cela, n'est-ce pas, nous montre que la Babylone va avoir ses établissements. Elle est la mère de tout cela. Elle est la mère. Comme, si vous voulez, Rome, le Vatican aujourd'hui, n'est-ce pas, est le centre, ou la mère, si vous voulez, de toutes les églises catholiques romaines répandues partout. Elle a des filles, beaucoup de filles. Verset 6. Verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Jean, n'est-ce pas, ne l'oublions pas, observe. Et nous avons déjà dit qu'il observe en habitant de la terre. Hein. L'esprit est là, qui l'éclaire, qui lui suggère tout, qui lui inspire tout ce qu'il doit comprendre et savoir. Mais il a charge de traduire ça dans un langage pour nous, dans un langage humain. Il est donc resté un habitant de la terre. Alors, il s'étonne. Dans le fond, ce qui nous est dit ici, ivre du sang des saints, c'est comme par la passion d'une sorte d'ivresse que la prostituée s'est gorgée du sang de ceux qu'elle a poursuivis de sa haine. Et ici, ivre du sang des saints, souvent on fait appel au passé. Bien sûr, on peut bien faire appel au passé et dire que c'est par millions qu'il faudrait compter les martyrs des persécutions sanglantes perpétrées par l'Église romaine. Elle ne peut pas s'en défendre. Elle ne peut pas s'en défendre. Je ne veux pas donner le chiffre, mais on a avancé des chiffres, c'est par millions. Mais ce n'est pas encore cela que veut surtout nous dire le verset 6. N'oublions pas que Jean prophétise. Par conséquent, ce n'est pas le passé qu'il regarde. Peut-être doit-il lui emprunter certaines choses, mais là, il nous parle de cette prostituée qui va apparaître, qui est en train de se former maintenant, et il nous dit qu'elle est ivre, il la voit ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Parce que cette femme, ce système religieux, ne va pas supporter, évidemment, les hommes ou les femmes qui voudront revenir à la bonne source, à la vérité. Ne va pas les supporter. Tous ceux qui seront des fidèles de Jésus-Christ seront l'objet de sa haine, c'est normal, le Seigneur Jésus nous a bien dit, n'est-ce pas, que le monde l'avait haï sans cause et qu'il haïrait sans cause ses disciples. Par conséquent, elle ne va pas supporter les vrais disciples. Et en ce temps-là, elle ne va pas user de moyens intermédiaires, elle va les mettre à mort. Elle va donc se gorger du sang de fidèles de Jésus-Christ, fidèles témoins, en les mettant à mort. Et voici Jean qui est saisi d'un grand étonnement, parce que il voit à l'extrémité des temps, n'est-ce pas ? Il est très conscient de ce qu'on lui représente, de ce qu'on lui montre. Il voit bien, n'est-ce pas, l'extrémité des temps. Mais lui, il appartient déjà encore à l'Église primitive. Il appartient à l'Église primitive. Ça se passe en l'an 95, avons-nous dit, n'est-ce pas ? Et il était à Éphèse quand l'empereur Domitien l'a déporté à Patmos. Mais il connaît l'Église primitive. Il sait ce qu'elle est. Et lui, personnellement, Jean était l'homme de la fidélité. Alors, pour lui, l'Église, eh bien, c'est la réunion de gens véritablement acquis entièrement à la parole de Dieu, de gens qui louent Dieu constamment, qui le servent, qui l'aiment, qui sont fidèles. Et puis voici que, à l'extrémité des temps, il voit exactement l'opposé. Et il lui est bien dit que c'est une église. Voilà l'aboutissement. Comment ça, c'est l'aboutissement d'église ? L'église qu'il connaît, lui, à sa naissance. Et il la voit là, dans cet état-là. Alors il est étonné, évidemment. Un grand étonnement le saisit. De voir une monstrueuse église qui persécute les saints tout au long de sa route et qui a renversé la vérité et prôné le mensonge. Nous arrivons au verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Attention, là nous allons entrer dans quelques difficultés. Le mystère de la femme et de la bête. Mystère, ça veut dire là, attention, il y a là une signification cachée dans les symboles, et les symboles sont là pour la révéler, mais il faudra, comme nous le voyons au verset 9, intelligence et sagesse. Dans l'intelligence et dans la sagesse, il y a de la prudence. Il y a aussi cette préservation à laquelle nous devons veiller pour nous-mêmes des influences extérieures ou des choses déjà dites connues. Attention, il faut avoir une liberté d'esprit, une grande liberté d'esprit. Il faut vraiment être attaché à la parole de Dieu, n'attendre toute lumière que d'elle. Un mystère. Verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Ah, quelque chose qui est assez compliqué. La bête que tu as vue, et cette bête, c'est, ne l'oublions pas, ce système qui est logé tout à fait à la fin des temps. Eh bien, cette bête, alors, voici que l'ange lui dit, eh bien, elle n'est plus, mais elle était. La bête, elle était, elle n'est plus, mais elle va reparaître, parce que tu l'as vue à la fin des temps, elle va reparaître. Mais maintenant, au temps où tu es, toi, Jean, elle n'est plus, mais elle a été déjà avant toi. Enfin, voilà, la bête était avant toi, avant que tu ne viennes, avant que tu ne sois là, avant que on ne te montre ses visions. Elle était, maintenant, en ce temps-là, mettons l'an 95 de notre ère, elle n'est plus. Et puis, et à la fin des temps, elle va reparaître, puisque tu l'as vue sous la forme de cette grande prostituée. Alors là, les choses, il faut bien le dire, n'est-ce pas, se compliquent. Il faut avoir, là, la tête à soi, si on peut dire, le cœur à soi. La première chose à savoir, c'est que la bête était avant le moment où Jean écrit, n'est-ce pas, j'insiste, elle n'est plus au moment où il écrit, et elle reparaîtra tout à fait à la fin. On apprend quel est son chemin, quel est son parcours. On apprend qu'elle appartient aux ténèbres, qu'elle agira contre le plan de Dieu, et qu'elle ira, qu'elle aboutira à la perdition. Mais elle provoquera l'ébahissement des habitants de la terre. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit, s'étonneront en la voyant parce qu'elle était... Elle va provoquer l'ébahissement des habitants de la terre, naturellement les sans-Dieu. Cela, n'est-ce pas, s'entend. Les sans-Dieu, ceux qui sont sans-Dieu, les habitants de la terre, évidemment la grande majorité, va les ébahir en raison tant de sa célébrité que de son étrange odyssée. Allez, les habitants vont être étonnés par le fait que elle était, on sait qu'elle était, on a des documents, on a l'histoire qui nous dit qu'elle était, qu'elle a existé, cette bête, puis qu'elle a disparu, longtemps même, elle a disparu. Et puis qu'elle reparaît, il y a vraiment un grand mystère. Alors, les habitants de la terre vont s'étonner. Ils ne vont pas contester, ils vont s'étonner. Alors, nous arrivons au verset 9. Alors là, nous allons entrer, nous, dans le mystère. Verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Attention à vous. Les sept têtes sont sept montagnes sur laquelle la femme est assise. Ce sont aussi sept rois, cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ah. Les sept têtes de la bête sur laquelle la femme est assise, la femme, la prostituée est assise, reçoivent une première signification. Je dis bien une première signification. Ce sont sept montagnes. Sept montagnes. Et comme cette femme est également assise sur les grandes eaux, ne l'oublions pas, elle est assise sur la bête écarlate, elle est assise sur les grandes eaux, elle est dans le désert. Et puis maintenant, n'est-ce pas, nous la voyons sur cette montagne. On la voit assise de différentes manières, n'est-ce pas, là, nous la voyons assise sur cette montagne. Alors, elle a donc une certaine juridiction, une influence, mais je dis plus qu'une influence, une juridiction d'un certain ordre, si vous voulez, sur un immense pays, dont les sept montagnes forment le centre caractéristique, c'est-à-dire la capitale de cet immense pays. Et cette capitale, nous avons appris au verset 5, qu'elle se nommait Babylone la Grande. Babylone la Grande. Mais, dirons-nous, Babylone la Grande, oui, nous avons entendu parler de Babylone, n'est-ce pas, par l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas cette Babylone d'autrefois. Parce que l'antique Babylone qui est située sur les bords de l'Euphrate est en pays plat. Il n'y a pas de montagne. Alors, c'est pas elle. C'est pas la Babylone antique. Il ne peut pas s'agir de celle-là. Par contre, il y a, à cette époque, une grande ville, une grande cité, à l'époque de Jean. Une cité dont le dictionnaire lui-même dit qu'elle est le centre de l'univers. Pas moi qui l'avance, vous pouvez consulter un dictionnaire en plusieurs volumes, le mien est celui de Quillet, par exemple, le déclare lui-même que au début de notre siècle, et pendant cinq siècles d'ailleurs, Rome a été le centre, véritablement le centre de l'univers. Donc à l'époque de Jean, il y a une ville qui est le centre de l'univers, et c'est Rome. Or, Rome est assise sur cette montagne. sur cette mont. Et le Horace, Virgile et Pline l'Ancien ont chacun parlé de Rome comme de la ville aux sept montagnes. Et soyons précis, ces montagnes portent des noms. Nous avons le mont Palatin, le mont Aventin, le mont Celius, le mont Esquilin, le mont Viminal, le mont Quirinal et le mont Capitolin ou Capitole. Voilà les sept montagnes de Rome. Actuellement, Rome s'est étendue et elle a gagné trois autres montagnes qui sont les monts Janicule, Pincio et Vatican. Alors, de sept, elle est portée à dix. Ce n'est pas non plus en dehors de nos symboles ici. Bon, alors, les sept montagnes sur lesquelles la prostituée est assise, c'est bien Rome. Elle est assise sur sept montagnes, mais
cette montagne, ça ne peut pas être toutes les montagnes qu'on peut trouver dans l'Empire d'Antichrist. Cette montagne rassemblée, tout ce qui nous parle de ces sept montagnes nous montre bien que ce sont sept montagnes groupées sur lesquelles une ville est installée, c'est la ville de Rome, et la ville de Rome est donc la capitale de l'Antichrist, d'une part, mais la capitale aussi du système religieux qui est figuré par la prostituée, Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est donc Rome d'une façon absolument incontestable. C'est tellement incontestable que dans le passé même, il s'est trouvé des ordres religieux qui ont fait dire au Vatican, mais vous savez, vous nous dites que Rome, parce que même dans les premiers âges du christianisme, on avait très bien compris que les sept montagnes désignaient Rome. Je vous dis, Rome était le centre de l'univers. Bon. Et alors, on avait dit, le catholicisme avait dit, eh bien, c'est la Rome des Césars. La Rome des Césars. Mais ce n'est pas la Rome papale. Alors que des moines au 15-16e siècle, on fait dire au Vatican, vous savez, nous avons bien regardé les choses, nous avons bien étudié, l'Apocalypse ne parle pas de la Rome papale, mais de la Rome, pardon, des Césars, mais de la Rome papale. C'est la Rome papale qui est là, n'est-ce pas? Ils voyaient donc par conséquent que ça concernait bien leur Église. Dès le premier siècle avant Jésus-Christ, Rome fut donc le centre de l'univers, alors qu'auparavant, c'est-à-dire même encore au début du premier siècle avant Jésus-Christ, elle n'avait été qu'une petite bourgade édifiée autour de ces sept collines. Mais dès avant notre ère, vous savez que l'Empire romain est né, mettons, en 65 avant Jésus-Christ, dès avant notre ère, elle devint la maîtresse de l'univers et elle le resta pendant 5 siècles, au cours desquels elle porta déjà les caractères que notre chapitre 17 attribue à la prostituée. Elle a déjà porté à ce moment-là ces caractères. Ne les aurait-elle pas portés encore plus après et jusqu'à nous maintenant? Je le pense. Bon, mais enfin, ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. Alors, elle conserva ses caractères, en somme, en plein cœur du christianisme. Et ensuite, les empereurs firent place au pape. Les empereurs, eux, partirent, il n'y en a plus, ça a été le démantèlement de l'Empire d'Occident. Vous savez que l'Empire romain, il y a eu un schisme, s'est coupé en deux, l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Et l'Empire d'Occident, bon, eh bien, il a subi l'invasion des barbares, des peuplades de barbares, et il a été démantelé. On n'a plus trouvé ensuite d'empereur. Les empereurs ont fait place au pape, si bien que ces derniers recueillirent la distinction qui était celle décernée aux empereurs, celle de souverain pontife, pontifex maximus. Moi, je ne sais pas si on le dit toujours, mais moi, quand j'étais jeune, n'est-ce pas, qu'on me parlait de Rome et tout ça, on me disait le pape c'est le souverain pontife, pontifex maximus, et c'était le titre que portait l'empereur romain. Et l'empereur romain, lui, il ne l'avait pas inventé, il l'avait acheté à prix d'or À Babylone, précisément. Le titre vient directement de Babylone, en passant par les empereurs romains, et il échoue sur la tête du pape. Vous allez me dire, mais faut surtout pas, n'est-ce pas, parler contre l'Église catholique. Je ne parle pas contre elle, je parle de la vérité, la concernant. C'est différent. Tout, d'ailleurs, par la suite, prit le caractère babylonien au cœur de cette centralisation romaine du christianisme. Vous savez qu'en 431 de notre ère, le pape prétendit ouvertement à la possession des clés de Saint-Pierre. Vous avez vu une représentation, n'est-ce pas, de Saint-Pierre avec les deux clés qui se croisent un peu, n'est-ce pas? Et puis, alors, le pape, il a ça aussi dans ses armes. Il a les deux clés de Saint-Pierre. J'y peux rien, moi, c'est pas une critique, c'est un fait. Hein. Il a cela dans ses armes. Or, les clés qu'il porte dans ses armes sont celles qui étaient les symboles, des symboles connus à Rome, du temps des empereurs, des symboles de deux divinités païennes. Et ces deux divinités païennes étaient Janus et Cybèle. Alors le pauvre apôtre Pierre, représenté ainsi, n'est-ce pas, a hérité des clés de Janus et de Cybèle que porte le pape dans ses armes. Porter les clés de ces deux divinités, c'était pouvoir dévoiler leurs desseins secrets. Et ce furent les clés de Janus et de Cybèle que la population païenne, christianisée, vous savez, que l'empereur Constantin, n'est-ce pas, décrète que, en 313, exactement, il décrète que le christianisme, maintenant, est libre. Avant, il était persécuté, mais il est libre. Hein. Et puis alors, à partir de ce moment-là, le christianisme va même devenir la religion de l'Empire romain. Alors, il y a là toute une population païenne qui ne s'est pas convertie. Il y a des gens qui se sont convertis, des Romains, je pense, des Latins qui se sont convertis au christianisme, mais la masse ne s'est pas convertie, n'est-ce pas, et elle est restée païenne seulement. Elle est entrée dans un christianisme, c'était la nouvelle religion, ils ont accepté cette nouvelle religion, mais ils aimaient bien garder tout de même certains signes, certaines habitudes, certaines superstitions, disons, qu'ils avaient auparavant, et notamment les clés de Janus et de Cybèle. Ils tenaient à ces clés-là parce que c'était les clés qui signifiaient qu'on pouvait fort bien dévoiler les secrets de la divinité. Alors, ma foi, on s'est dit, puisque Saint-Pierre, il a été dit à Saint-Pierre qu'il aurait des clés aussi. C'est très simple, n'est-ce pas? On va donner deux clés à Saint-Pierre, et puis alors le peuple païen, christianisé, voyait retrouver ses clés à Saint-Pierre, il était content, tout à fait satisfait. Pour lui, c'était encore les clés de Janus et de Cybèle. Chers amis, voilà la provenance des choses. Voilà la provenance. Et cela, vous savez, je peux vous montrer les sources d'où je tire ces renseignements. Ce sont des sources absolument sûres, il y a eu des études qui sont faites là-dessus. Seulement aujourd'hui, on n'ose pas dire ça, on est dans un temps d'œcuménisme, ça. Faut pas. Mais ce n'est pas des critiques, c'est la vérité. Alors, à ces premiers aperçus, je vous ai donné déjà quelques aperçus, il y en a bien d'autres, vous savez. À ces premiers aperçus, l'on peut comprendre comment la femme prostituée du chapitre 17 a rempli sa coupe des abominations et des impuretés de sa prostitution. Elle est allée les chercher loin, vous savez. C'est tout au long du christianisme de tradition qu'elle a pu trouver toutes ces abominations qui vont remplir sa coupe, et à la fin des temps, alors là, ça, ça, ça déborde ces abominations et ces impuretés sont encore plus éclatantes. C'est une infidélité outrancière. Voyons le verset 10. Alors, les sept têtes, avons-nous lu à la fin du verset 9, les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Donc, les sept têtes figurent tant sept montagnes que sept rois. Cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Voilà. Le mystère s'épaissit. Les sept têtes de la bête ont une seconde signification, en rapport avec la première d'ailleurs. Elles représentent maintenant sept rois, dont cinq sont tombés, au moment où j'en parle. L'apôtre Jean en parle, n'est-ce pas? Elle représente donc sept rois dont cinq sont tombés, dont un autre, le sixième, existe au moment où Jean écrit l'Apocalypse. Et le septième n'est pas encore venu à ce moment-là. Alors, là, évidemment, il y a une grosse difficulté d'interprétation. Peut-on actuellement élucider ce mystère et vraiment interpréter convenablement ce passage? En partie seulement, chers amis. Faut pas, n'est-ce pas, prétendre ce qu'on ne peut pas faire. Mais en partie seulement. Bien des interprétations ont été avancées, naturellement, depuis que l'on étudie l'Apocalypse, c'est-à-dire depuis le commencement du deuxième siècle. L'une de ces interprétations, assez courante, que l'on trouve dans les ouvrages, désigne les saints rois tombés comme suit. Il désigne Salmanassar, roi d'Assyrie. Il désigne deuxièmement Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Troisièmement Cyrus, roi de Perse, dont nous parle l'Écriture, n'est-ce pas? Et quatrièmement, Alexandre le Grand, roi de Macédoine. Cinquièmement, Antiochos IV, Épiphane. On l'appelle quelquefois Antiochus, mais c'est Antiochos son nom. C'est un nom grec et non pas latin. Antiochos IV, roi de Syrie, comme cinquième roi. Voilà les cinq rois qui sont tombés. En effet, ils ne sont plus là. Au moment où Jean écrit, ils ne sont plus là. Ils sont du passé. Bien. Et puis le sixième, celui qui existe à l'époque de Jean, c'est l'empereur Domitien. Empereur Domitien, qui était particulièrement cruel et qui a été comparé à Néron, on disait que c'est un second Néron. C'est lui qui avait fait transporter Jean à Patmos. Mais alors, il y a un septième roi, et ce septième roi, il est annoncé, mais il n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Un roi qui va venir rester peu de temps, il n'est pas encore venu. Et ce roi se situerait à la fin des temps, c'est-à-dire juste avant le huitième roi que nous allons voir au verset 11, et le huitième roi qui est l'Antichrist. Si bien que il y a une coupure, n'est-ce pas, entre les cinq rois qui sont tombés. Bon, ils sont tombés, alors Jean nous dit ça, j'en parle pas, c'est du passé, hein, ils sont tombés. Le sixième qui est là en place quand lui est à Patmos, Jean, et puis alors un septième qui n'est pas encore venu, qui va venir, alors la coupure des temps se ferait entre l'époque de Jean, l'époque donc de l'empereur Domitien, et puis ce septième roi qu'on va trouver à la fin des temps, tout près du huitième roi, l'Antichrist. Il y aurait donc là, c'est là qu'il faudrait mettre la coupure des temps. Celui que l'apôtre connaît, donc, avons-nous dit, c'est celui qui existe. Toutefois, ce tableau que je viens de vous donner, parce que c'est ce qu'on trouve, je vous dis, le plus fréquemment dans les ouvrages, ce tableau n'est pas satisfaisant. Car pour bien respecter l'idée de la prophétie, l'idée de notre texte même, il faudrait que les cinq rois qui sont tombés appartiennent au quatrième empire de Daniel, c'est-à-dire à l'empire romain qui est l'empire de l'Antichrist. Il faudrait que ce soit dans cet empire-là que l'on nous découvre les cinq rois qui sont tombés. Là encore, on se trouve en face de difficultés. Alors on peut chercher, avant Domitien, qui est celui qui existe, chercher les rois, les empereurs romains avant, roi ou empereur. La Bible appelle roi ce qui est empereur, elle n'emploie pas le terme d'empereur. Bon, alors, il faudrait les chercher, ces cinq, parmi ceux qui ont été les prédécesseurs de Domitien, celui qui existe. Seulement, vous savez, là, il y a encore des difficultés, parce que depuis la fondation en 65 avant Jésus-Christ de l'Empire romain, jusque un peu après Jean, c'est-à-dire jusque, mettons, l'an 130, 135, n'est-ce pas, on peut décompter, là, une gamme de 15 empereurs, pardon, de 15 empereurs. Seulement, dans ces 15 empereurs, il y en a six qui furent assassinés, deux qui furent empoisonnés, trois qui se suicidèrent. Mais c'était pas très stable comme situation, ça, n'est-ce pas? Voyez, six qui furent assassinés, deux empoisonnés, ça fait 8 qu'on a liquidés, n'est-ce pas? Sur les 15, n'est-ce pas? Et vous avez des rois qui sont restés quelques mois, des empereurs sont restés quelques mois, hein. On ne sait pas si on doit s'intéresser à cela. Vous voyez, c'est difficile de faire un choix parmi ces 15 empereurs. Enfin, ça ne fait pas tout à fait 15 au moment de Jean. Mais si l'on retient que celui qui a déporté Jean à Patmos est bien l'empereur Domitien, tout le monde n'est pas de cet avis. Il y en a qui situent l'Apocalypse plus tôt. C'est une erreur, mais enfin, laissons les erreurs, l'erreur est humaine. C'est bien en 95. Heureusement, il y a certains commentateurs qui sont d'accord là-dessus. En 95, c'est-à-dire sous le règne de l'empereur Domitien, que Jean a été déporté. Bon, alors, si on tient cela pour acquis, quels pourraient être les cinq rois tombés? Eh bien, dans les prédécesseurs, donc, le choix n'est pas bien facile, et puis ce n'est pas un choix que nous avons à faire. Il faudrait tout de même avoir des raisons pour les désigner, pour les retrouver. Il y a eu, avant Domitien, même une période de crise, d'interrègne. C'est très instable. On pourrait, par contre, ne retenir que les empereurs qui se sont officiellement divinisés. Ceux-là, n'est-ce pas, portent donc un caractère particulier, n'est-ce pas, un caractère d'antichrist. Alors on pourrait s'intéresser à ceux-là, et alors on trouverait cinq empereurs, cinq rois qui sont tombés, c'est-à-dire qui sont du passé, et ces cinq rois, ayant appartenu donc à l'Empire romain, au quatrième empire de Daniel, ces cinq rois seraient Jules César, Auguste, Claude, Vespasien et Titus. Titus, celui qui, avant d'être empereur, étant général, a conduit l'expédition sur Jérusalem, et c'est lui qui a brûlé le temple et qui a amené la déportation de beaucoup de juifs. Alors, puis vient Domitien, qui est le sixième, celui qui existe. Voilà. Alors, nous pouvons guère en dire plus. Moi, vous savez, je ne peux pas vous assurer que Jean a entendu, par les cinq rois qui sont tombés, désigner ces empereurs-là. Mais je vous dis, c'est peut-être ce qu'il y a de plus plausible. Non, Jean ne les a pas nommés, et nous voyons bien que nous sommes devant des difficultés. Ils sont tombés, donc il faut regarder dans le passé, et nous ne trouvons que ces cinq empereurs divinisés qui pourraient correspondre à cela.